Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Docteur Martine Bichel, bonjour.
Bonjour. Un
quatrième entretien avec vous cette semaine dans cette série, je dirais, spéciale, mais elles sont toutes spéciales de semaine en semaine, puisque nous revenons avec vous sur cette grande question autour de ce début de vie qu'il faut protéger, début de vie fragile, et cette fin de vie au programme. Dans ce quatrième numéro, je vous propose de revenir aussi sur ce problème autour de l'handicap, et particulièrement aussi autour de l'handicap de la trisomie 21, docteur Martine Bichel, et merci. Là aussi, l'Église est encore une fois très claire. Vous pourriez peut-être, en introduction, rappeler la position de l'Église concernant la trisomie 21.
C'est-à-dire l'Église face à toutes les vulnérabilités, toutes les pauvretés, tous les handicaps, appelle la responsabilité des hommes, des sociétés, pour prendre en charge, dans une solidarité, dans une fraternité, toutes ces personnes qui sont dépendantes parfois. Hein. Et donc ça a existé dès la préhistoire. On s'est rendu compte que il y avait une entraide, une solidarité entre les personnes pour s'entraider. Voilà. Et donc, c'est très important. Donc, l'Église, elle nous appelle à cela, à la solidarité et à l'entraide, à la fraternité.
Alors, aujourd'hui, cette trisomie 21, on propose à toutes les femmes, docteur Martine Bichel, ce dépistage. Ce dépistage est quasiment aujourd'hui un proposé à chaque femme.
Oui, ce dépistage est proposé à chaque femme dans le cadre de la surveillance de la grossesse. Ce qui peut être une bonne chose, pourquoi pas. La surveillance de la grossesse est de plus en plus performante, je dirais.
Et trop médicalisée parfois, permettez-moi.
Parfois peut-être non. Trop médicalisée, mais en tout cas...
Elle en devient parfois une maladie.
Oui, mais cela aussi, un côté positif, c'est que la mortalité infantile a énormément régressé dans nos pays développés, ce qui n'est pas toujours le cas dans des pays plus pauvres, plus démunis. Et donc, ce dépistage en soi n'est pas une mauvaise chose, mais il faut voir quel but il atteint. Alors, c'est vrai que systématiquement, le médecin propose un test, donc avec une échographie, avec le dosage des marqueurs sériques. Et actuellement, on a un nouveau test qui se fait simplement sur prise de sang, où on peut dépister cette maladie, la trisomie 21. Et cette maladie est devenue un peu, il me semble, emblématique du handicap. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est gênant, c'est que lorsque le diagnostic de la trisomie 21 est confirmé, donc ce qui demande d'autres examens encore, dans 96% des cas, les femmes se dirigent vers une interruption médicale de grossesse. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas préparées à accueillir un enfant handicapé, qui est parfois lourdement handicapé. Il y a différents types de handicap chez les trisomiques. Il y en a des trisomies qui sont plus légères que d'autres. Et donc ces femmes ne sont pas préparées. Et la structure qui les entoure ne les soutient peut-être pas suffisamment non plus. Alors, il ne faut pas minimiser la souffrance que ça peut être d'avoir un enfant handicapé. Mais à travers cela, on voit que notre société va vers ce qu'on appelle un droit à l'enfant et un droit à l'enfant en bonne santé. Donc, c'est peut-être cela qui est un peu gênant. Donc, comme tout à l'heure, on n'est plus dans l'accueil de la vie telle que le Créateur la donne. Et toute vie donnée n'est pas parfaite. Hein. Il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, des personnes qui sont handicapées. Donc on n'est plus dans l'accueil inconditionnel de la vie, mais on est dans le droit à accueillir à choisir son enfant. Ce qui existe, par exemple, dans des cliniques privées en Californie, on peut choisir son enfant quasiment sur catalogue. Bien sûr, choisir le sexe, choisir la couleur des yeux, des cheveux, et même on peut choisir un enfant avec l'oreille absolue, donc un enfant musicien. Donc ça se fait déjà à l'aide du diagnostic pré-implantatoire, donc c'est suite à une fécondation in vitro. Et donc, on est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on peut en tirer comme leçon du fait que l'enfant trisomique est très peu accueilli aujourd'hui dans les familles. Donc, ça pose la question aussi de l'eugénisme.
Oui, ça, c'est la grande question.
Ouais. Est-ce qu'on ne fait pas un tri ? Est-ce qu'on ne va pas faire un tri de plus en plus des enfants qu'on veut bien accueillir ou pas. D'autant plus avec ce test de la prise de sang dont je vous ai parlé, où on pourra détecter d'autres formes de trisomie. Il y a d'autres trisomies que la trisomie 21 ou d'autres maladies génétiques. Et donc, ça pose cette grande question de l'eugénisme. Certains scientifiques nous alertent là-dessus, comme par exemple le professeur Testard, qui est le père du premier bébé éprouvette et qui nous dit que le diagnostic pré-implantatoire fait le lit de l'eugénisme à l'avenir. Donc c'est une question grave.
Où on va, docteur Michel, avec cette grande question qui est effectivement pleine de gravité ?
On va
le tableau est sombre et inquiétant le devenir de la civilisation, au fond.
Oui, pour le devenir de l'humanité, l'Église nous dit qu'on mesure le degré d'humanité d'une société au fait qu'elle sache accueillir le plus vulnérable. Et donc le plus vulnérable aujourd'hui est moins accueilli. Bon, il y a quand même des structures qui sont mises en place pour accueillir des handicapés, pour faciliter la vie des handicapés, etc. Mais elle est quand même... le handicapé est quand même moins accueilli. Et il faut voir aussi qu'il y a une question économique derrière. Il y a des calculs économiques qui font dire que des personnes qui coûteraient cher à être prises en charge par la société, il vaut peut-être mieux pas que...
Ne pas les accueillir ou carrément les supprimer. On fait court et en résumé. Oui. Où peut être notre espérance en tant que chrétien dans cette lecture actuelle aussi de ce qui se présente et de ce qui est déjà fait et qui est en route?
Notre espérance, je crois, c'est que l'Église ne doit pas se décourager à apporter son message et qu'il y ait un sursaut de solidarité, de fraternité dans nos sociétés. Ça se voit un peu chez les jeunes. On voit des jeunes qui partent volontiers en mission dans des pays pauvres pour aider. Donc il faut croire en ce sursaut de fraternité, mais il faut aussi l'annoncer, il faut aussi le dire, annoncer le message pour que ça passe, quoi.
Qu'est-ce que vous pouvez dire directement, là, profiter de ce passage toute cette semaine sur les ondes de nos radios chrétiennes pour parler directement à tous nos auditeurs laïcs, peut-être engagés eux-mêmes en paroisse, sur leur lieu de travail, baptisés, chrétiens, aussi envoyés à la mission?
Peut-être de se remettre en question, de faire un peu une relecture. Comment se comporte-t-il vis-à-vis des personnes vulnérables ? Y a-t-il des personnes vulnérables dans leur entourage proche pour lesquelles ils pourraient faire quelque chose de plus ? Comment être vraiment frère et sœur ? Comment être solidaire, d'abord dans notre milieu de vie et avec nos plus proches ? Donc ça peut se répandre comme une tache d'huile et il faut commencer par ce qui nous est accessible.
Merci docteur Martine Michel. Je vous donne rendez-vous demain pour cette dernière émission et série autour de comment au fond protéger ce début de vie, protéger toutes ces personnes. Vous avez évoqué aussi la personne handicapée, comment aussi se positionner quand on est chrétien, catholique, bien engagé. Est-ce qu'on est assez audacieux, courageux aussi entrons dans ce travail aussi personnel pour savoir au moment opportun se positionner pour donner des réponses claires et selon aussi le regard et la parole de l'Église catholique. Docteur Michel, demain à la même heure, et merci.
Merci.